Il est minuit 20 sur Europe 1 et nous accueillons Joël au 3921. Bonsoir Joël.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir
à tous les auditeurs. Je suis restée éveillée pour répondre.
Très bien. Quel âge avez-vous Joël et d'où nous appelez-vous?
Alors, moi j'appelle de Paris, région parisienne.
Oui.
Et en fait, on m'a recontactée parce que j'ai envoyé un petit message hier à l'attention de Célia. On peut redire le nom des personnes qui sont intervenues.
Bien sûr.
Et donc, qui évoquait une situation douloureuse avec son copain où elle s'inquiétait de manière démesurée dès lors qu'il s'éloignait d'elle.
Mmh.
Et puis, elle a lancé un appel quand même à l'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour en sortir de cette dialectique? Puisqu'en fait, pour elle, une nouvelle relation, ça rime avec souffrance. Et du coup, elle ne peut pas profiter de la relation. Et moi, je suis psychologue clinicienne. Je suis spécialisée en petite enfance, mais aussi en... je me spécialise actuellement, après avoir effectué des formations en EMDR et en intégration du cycle de vie, qui sont des approches un peu centrées sur les effets de ce qui est de l'ordre des stress post-traumatiques ou des traumas. Et donc, en l'écoutant, j'ai lancé une piste, quoi. Je vous ai envoyé un message pour lui suggérer de faire appel à ce genre d'approche, parce que quand je l'écoutais, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'une répétition quand même dans ces rencontres où à chaque fois, il y avait cette crainte que la personne l'abandonne. Alors, peut-être qu'elle a eu des mésaventures, hein, je n'avais pas tout suivi et je ne connais pas toute son histoire. Mais il y avait ce qui était spécifique dans ce qu'elle racontait, c'est que là, cette fois-ci, ce nouveau compagnon la rassurait, puisqu'il lui envoyait des messages pour lui dire « je suis bien arrivée, je pense à toi », etc. Et malgré tout, elle était en proie en fait à ce qu'on appelle des angoisses absolument irrationnelles. Et donc, la disproportion entre ce sentiment d'insécurité récurrent et la situation concrète qu'elle vivait m'a laissé penser que c'était quelque chose qui avait été vécu, mais dans un autre temps. Et comme je suis spécialisée dans les enfants, il y avait l'idée que j'entendais le désêtre et la sensation de peur et d'impuissance que peut éprouver un enfant lorsque son parent ou la personne qui s'occupe d'elle s'éloigne. Et tout ça, c'est l'effet de petit enfant qui ne fait pas la distinction entre la personne n'est pas là, elle a disparu. Si on ne lui explique pas pourquoi elle s'éloigne et pourquoi elle ne revient pas, alors que c'est attendu, mettons, elle s'imagine plein de choses, qu'il va l'abandonner, comme dans l'histoire du petit pousset, ou qu'il ne l'aime plus, et que c'est terminé. Et puis là, la dame, elle avait l'impression que quand elle était loin d'elle, il allait se passer quelque chose, elle allait rencontrer quelqu'un d'autre, il allait plus l'aimer, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à parler de l'impression qu'elle subissait, que c'était des effets d'un stress vécu, d'un trauma vécu.
Oui,
et je pense qu'il y a fort longtemps, il y a quelqu'un qui a évoqué à la fin de l'émission, vous n'aviez sans doute pas encore reçu ma proposition, quoi, mais elle avait évoqué le fait qu'il y avait vraisemblablement une angoisse d'abandon. Et les angoisses d'abandon, elles ne viennent pas de nulle part, en fait. Hein, quand on connaît la structuration de la personnalité depuis l'enfance, on sait que l'angoisse d'abandon, elle fait référence à des situations vécues mal comprises. Bien entendu que si c'est expliqué que maman ne va pas venir pendant 2 jours parce qu'elle est à l'hôpital, l'enfant, il en entend quelque chose. Mais la problématique du trauma, c'est que précisément la personne, elle subit. C'est ce que disait aussi Julia, hein, quand on subit un choc et qu'on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on n'a pas de soutien à côté, même l'adulte, il y a une sorte de sidération. On n'arrive plus à penser, puis il y a quelque chose qui fait qu'on ne ressent plus la douleur. Et c'est un mécanisme, en fait, de protection, hein, bien sûr. Mais après, ça reste entassé quelque part. Et donc, l'approche EMDR, par exemple, c'est celle que j'utilise le plus quand il y a des traumas, notamment récents.
Rappelez pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'EMDR, s'il vous plaît.
Alors, l'EMDR, en anglais, c'est Eyes Movement Desensitization and Retreatment. Donc, en fait, c'est une approche qui a été élaborée par une dame qui s'appelle Francine Shapiro aux États-Unis à partir d'expériences en voyant que ce qui se passe pendant le sommeil, lors de la phase de sommeil paradoxal, avec les mouvements oculaires qui, qui bougent de chaque côté pendant le sommeil, était une période pendant laquelle toutes les informations de la journée et les informations passées étaient retraitées de façon à, en quelque sorte, les rendre intégrables, gérables par le cerveau. Mmh. Et donc, lorsqu'il y a des informations qui n'ont pas pu être retraitées en temps et en heure, donc c'est ce qui se passe lorsqu'il y a eu un trauma, parce que ça s'est bloqué, ça s'est figé, bah, ça reste enquisté. Et en fait, on a affaire à des réseaux parasites dans le cerveau qui sont dysfonctionnels. C'est-à-dire que chaque fois qu'une situation similaire se présente, bah, la personne, on le sait qu'elle a subi un trauma parce qu'elle a un comportement qui est inadapté. Mettons qu'une personne qui a vécu un choc en voiture, à chaque fois qu'elle entend le bruit d'un choc dans un endroit ou qu'elle est dans le métro et que le métro s'arrête, il y a le revécu. Et c'est inadapté par rapport au fait qu'il ne se passe rien au moment, enfin, il se passe rien de grave au moment où ça se produit. Sauf que pour elle, ça la replonge dans une situation vécue où ça a été traumatique, avec la sensation qu'on peut mourir, qu'il n'y a personne qui va pouvoir nous aider. Et qu'on... Voilà, c'est ça le trauma. Et puis le petit enfant, il est encore plus sensible à cette dimension, puisque lui, il ne sait pas. Et, Donc, l'approche, en fait, elle vise, pour le praticien, d'abord d'établir un état de sécurité pour pouvoir permettre un état de conscience modifié avec le mouvement des yeux ou avec des petites tapes sur les genoux, enfin, c'est du tapping, qui permet d'une part de sensibiliser le corps à quelque chose d'une cadence qui le remobilise, et puis en parallèle, de soutenir son patient en étant en contact. En étant en contact, soit par le regard qui regarde les doigts ou la baguette qui va de droite à gauche, soit par le contact avec les petites tapes. Alors moi, je ne suis pas spécialiste EMDR, dans la mesure où je vais être honnête, où je suis à la base d'orientation analytique, je me suis occupée d'enfants en structure. D'ailleurs, pour la dame précédente, je suis intervenue en PMI et il y a quand même des structures d'accueil pour les personnes, pour les femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Et puis, il y a des solutions temporaires, en fait, pour leur permettre déjà de s'extraire. Mais après, c'est vrai que la suite, c'est la question des moyens. Hein, de donner de... Et donc, le MDR, c'est une approche que j'ai suivi, une formation, déjà pour comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, j'ai mis du temps avant de la pratiquer, parce que, bon, c'est une autre façon d'intervenir que ce que vous faites ou ce que l'on fait par la parole. C'est quand même autre chose, puisqu'on doit mettre la personne dans une situation. On doit d'abord bien la sécuriser. Et puis, moi, j'utilise la métaphore de l'accompagnateur dans un voyage. L'accompagnateur, c'est celui qui valide si la personne elle est en aptitude pour y aller. Si elle n'a pas été préparée, on l'expose à des dangers. Et donc, partant de là, je l'ai tenté justement sur une personne qui revenait d'un grand choc. Elle a failli être assassinée par son conjoint.
Oui.
Et en l'écoutant, elle me faisait toute confiance. Elle me dit, j'ai des flashbacks, je n'arrive pas. À chaque fois que mon nouveau compagnon me crie dessus ou qu'on se dispute, je me dis qu'il va me tuer. Enfin, c'est terrible, les traumas, parce qu'elle n'en sortait pas à chaque fois qu'elle était en conflit ou qu'elle croyait que son conjoint allait là. Ils se disputaient, quoi. Elle croyait qu'il allait la taper, qu'il allait la tuer, quoi. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Et puis, j'ai pas regretté, parce que ça l'a complètement désensibilisé. Ce trauma, en tout cas, il est re-rentré dans sa vie comme quelque chose du passé. Et par la sécurité, etc., elle a pu l'intégrer comme c'est quelque chose qui lui est arrivé, mais elle a développé, on aide aussi la personne à développer des ressources intérieur pour, si ça se reproduit, qu'est-ce que vous pourriez faire, à quel moment il faut se partir. En général, le premier coup. Le premier coup, la première claque, la première parole insultante, la personne doit identifier que ça va être encore une personne dangereuse. Et puis, elle s'est tellement stabilisée qu'avec son compagnon, elle a pu s'apaiser et même tomber enceinte. Donc, je l'ai fait une fois. Après, pour d'autres situations plus anodines de la vie, des petits chocs, etc. Ça fonctionne bien. Après, ça n'exclut pas, évidemment. D'abord, il y a le côté singulier. Hein. Chaque personne a son tempo. Donc, la personne qui a appelé hier, je ne sais pas si elle a vécu plusieurs séparations difficiles ou un grand choc étant enfant. En fait, la problématique, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu floues, vous me posez des questions.
Non, tout va bien. Pour l'instant, je vous suis.
C'est que les événements traumatiques en question, notamment quand il y a des troubles de l'attachement comme ce que présentait Célia hier, eh bien, c'est en deçà de la période où on a accès aux souvenirs. C'est-à-dire, c'est souvent des périodes où il n'y a pas la mémoire.
Oui, dont on ne se souvient plus. Un événement donc qu'on a pu vivre tout petit. Même.
Exactement. Exactement. Et comme on ne s'en souvient plus et que c'est le mécanisme qui a été mis en place pour ne pas s'en souvenir, parce que c'était trop douloureux, c'est ce qu'on fait aussi quand on a un trauma adulte, ouais. En fait, c'est chassé et ça revient par le biais de « je ne comprends pas, à chaque fois que je passe devant tel endroit, je me mets à frissonner ». Ça vient indiquer. Mais après, pour retrouver, il faut quand même mettre la personne dans une situation telle qu'elle peut l'aborder. Ouais. Donc, plus c'est ancien, plus ça peut prendre du temps quand même.
On peut en tout cas considérer, Hélène, qu'il y a des personnes pour qui ces souvenirs-là remontent tout seuls, enfouis pendant des années, notamment des violences faites ou des violences sexuelles ou des attouchements qui datent de lorsqu'on avait 5 ans ou 10 ans et qui remontent à la trentaine, à la quarantaine. Donc on se doute bien que cette méthode dont vous parlez, le MDR, est une méthode qui va faciliter cet accompagnement, hein, puisque vous parlez d'accompagnateur, dans les tréfonds du passé.
Dans la reviviscence parce que ça, déjà, même Freud et Ferenczi ou d'autres, ils disaient que pour en venir à bout, en fait, la personne qui a vécu un traumatisme, elle va se débrouiller dans sa vie future pour revivre une situation de façon à solutionner ce qui n'a pas pu être résolu au moment où ça s'est produit. Donc, les phénomènes de répétition, ça peut se passer dans les relations conjugales, ça peut se passer dans la vie professionnelle, c'est la porte d'entrée. Après, ce qui est important de spécifier, parce que c'est aussi le cas de l'ICV, qui est intégration du cycle de vie, c'est qu'on fait beaucoup plus appel que dans les thérapies par la parole à ce qui a été encrypté dans le corps. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant parce que tous les nouveaux développements d'aujourd'hui, des neurosciences, si elles ont un intérêt, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut voir ce qui s'est inscrit dans le corps. Par la biologie même. Quand on sécrète de l'adrénaline à un moment où normalement il ne se passe rien, le corps il vient vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la peur, ça se traduit par des sécrétions d'adrénaline, de certaines hormones. Et donc on passe par le corps puisqu'on fait remonter la personne progressivement au souvenir traumatique en lui demandant d'abord, quand vous avez peur que votre compagnon il vous trompe ou il vous abandonne, qu'est-ce que vous ressentez ? Où ça se traduit. Et bien sûr qu'en disant, est-ce que vous avez le souvenir ? La première fois que vous avez ressenti ça dans votre corps, mal au ventre, au point de vous plier en deux, ou impossible de dormir tellement vous aviez eu peur. Et puis, par le biais de perception et de remémoration, de petites images qui reviennent, progressivement, on arrive des fois à 12 ans, puis de 12 ans, c'est bizarre, mais je crois que j'avais déjà éprouvé ça. Et puis des fois, on peut arriver sur vraiment des souvenirs complètement abolis par la personne. Elle se retrouve, elle a 4 ans, ma nounou m'a laissé tomber, je suis restée une après-midi toute seule dans mon parc. Honnêtement, je vous donne des exemples qui ne sont pas réels, par protection pour mes patients, mais ça existe.
On peut voir à travers ce que vous dites ce soir que on a beaucoup avancé sur ces techniques et que vous qui nous écoutez, si vous en doutiez encore, il y a aujourd'hui des possibilités, si vous sentez des malaises, des choses, des peurs que vous ne vous expliquez pas, il y a tout un tas de choses. Merci beaucoup pour votre appel sur l'antenne d'Europe 1,
Hélène. Je vous en prie.
Et puis, bonne continuation.
Votre émission aussi. C'est intéressant d'écouter.
Joël, je vous appelle Hélène, ça va mieux, excusez-moi.
C'est Joël. C'est Joël. Merci, bonne fin de soirée.
Merci pour votre appel, au revoir.
Bonne continuation, au revoir.